Chapitre 2. Miss Löwenstein. Les chiens ne m'ont jamais mordu. Seuls les hommes l'ont fait. Marilyn Monroe. Bar du restaurant Imperator, Rockefeller Center, New York, 18h45. Installé au sommet du Rockefeller Center, le bar de l'Imperator dominait la ville, offrant une vue panoramique sur Manhattan. Sa décoration résultait d'un savant mélange de tradition et de design. Lors de la rénovation de l'établissement, on avait pris soin de conserver les boiseries, les tables art déco et les fauteuils club en cuir. Cet aménagement conférait à l'endroit une ambiance cosy de vieux club anglais qui se conjuguait à un espace plus moderne, à l'image du long bar lumineux en verre dépoli qui traversait la pièce. Silhouette gracile et démarche légère, Emma Löwenstein se faufilait de table en table, servant les vins, invitant à la dégustation et expliquant avec pédagogie l'origine et l'historique des nectars. La jeune sommelière était douée pour communiquer son enthousiasme. L'envolée gracieuse de ses mains, la précision de ses gestes, la franchise de son sourire, tout dans son apparence reflétait sa passion et son désir de la partager. Un balai de serveur apporta l'avant-dernier plat. La tartine de pied de cochon gratinée au parmesan, annonça Emma, tandis que montaient des murmures d'approbation au fur et à mesure que les invités découvraient leur plat. Elle servit à chacun un verre de vin rouge en prenant soin de masquer l'étiquette, puis, pendant quelques minutes, répondit aux questions des convives, égrenant les indices pour leur faire découvrir le vin. Il s'agit d'un morgon côte du Pie cru du Beaujolais, révéla-t-elle enfin. Un vin long en bouche, gourmand, tendu, nerveux et velouté aux arômes de fraises et de griottes qui rivalise à merveille avec le caractère canaille du pied de cochon. C'est elle qui avait eu l'idée de ces dégustations œnologiques hebdomadaires qui, grâce aux bouches à oreille, connaissaient de plus en plus de succès. Le concept était simple. Emma proposait une dégustation de 4 vins accompagnés de 4 mets imaginés par le chef du restaurant gastronomique Jonathan l'Empereur. D'une durée d'une heure, chaque rencontre était organisée autour d'un thème spécifique, d'un cépage ou d'un lieu et était prétexte à une initiation ludique à l'œnologie. Emma passa derrière le comptoir et fit signe au serveur d'apporter le dernier plat. Elle profita de ce moment de battement pour jeter un coup d'œil discret à son téléphone cellulaire qui était en train de clignoter. En prenant connaissance du SMS, elle eut un moment de panique. Je suis de passage à New York cette semaine. On dîne ensemble ce soir? Tu me manques, François. Emma? La voix de son assistant la tira de la contemplation de son écran. Elle se ressaisit immédiatement et annonça à la salle: Pour conclure cette dégustation, nous vous proposons un ananas aux pétales de magnolia accompagné de sa glace au marshmallow caramélisé au feu de bois. Elle ouvrit 2 nouvelles bouteilles de vin et servit son auditoire. Après un jeu de devinettes, elle conclut « Un vin italien, piémontais, un moscato d'Asti. Un cépage gourmand, aromatique et aérien, légèrement pétillant et sucré. Un vin au nez de rose et aux bulles fines qui viennent soutenir élégamment la fraîcheur de l'ananas. » La soirée s'acheva sur des questions du public. Une partie des demandes concernait le parcours professionnel d'Emma, qui y répondit volontiers, ne laissant rien transparaître du trouble qui l'habitait. Elle était née dans une famille modeste de Virginie-Occidentale. L'été de ses 14 ans, son père, chauffeur routier, avait emmené sa famille visiter les vignobles de Californie. Pour l'adolescente, cette découverte avait été un véritable enchantement qui avait déclenché un intérêt et une passion pour le vin ainsi qu'une vocation toute trouvée. Elle avait intégré le lycée hôtelier de Charleston, qui proposait une formation solide en œnologie. Une fois son diplôme en poche, elle avait quitté sans regret son bled paumé. Direction New York. Elle avait d'abord été serveuse dans un établissement modeste, puis chef de rang dans un restaurant à la mode de West Village. Elle travaillait alors jusqu'à 16 heures par jour, servant à table, conseillant les vins et s'occupant du bar. Un jour, elle était tombée sur un drôle de client. Quelqu'un dont elle avait immédiatement reconnu le visage, son idole, Jonathan l'Empereur. Celui que les critiques gastronomiques surnommaient le Mozart de la gastronomie. le chef dirigeait un prestigieux restaurant de Manhattan, le fameux Imperator, considéré par certains comme la meilleure table du monde. L'Imperator était vraiment le saint des saints, accueillant chaque année des milliers de clients venus des quatre coins de la planète, et il fallait souvent attendre plus d'un an pour obtenir une réservation. Ce jour-là, l'empereur déjeunait avec sa femme, incognito. À l'époque, il possédait déjà des restaurants dans le monde entier. C'était un type incroyablement jeune pour être à la tête d'un tel empire. Emma avait pris son courage à deux mains et avait osé aborder l'idole. Jonathan l'avait écouté avec intérêt et, très vite, le déjeuner s'était transformé en entretien d'embauche. Le succès n'avait pas tourné la tête de l'empereur. Il était exigeant mais humble, toujours à l'affût de nouveaux talents. Au moment de régler l'addition, il lui avait tendu sa carte en disant « Vous commencez demain ». Le lendemain, elle signa un contrat de chef sommelier adjoint à l'Imperator. Pendant 3 ans, elle s'était formidablement bien entendue avec Jonathan. L'empereur avait une créativité débordante et la recherche de l'accord entre les mets et le vin avait toute sa place dans sa cuisine. Professionnellement, elle avait réalisé son rêve. L'année précédente, après une rupture conjugale, le chef français avait rendu son tablier. Le restaurant avait été repris, mais même si Jonathan l'Empereur n'était plus au fourneau, son esprit continuait à imprégner les lieux, et les plats qu'il avait créés figuraient toujours à la carte. « Je vous remercie pour votre présence et j'espère que vous avez passé une bonne soirée », lança-t-elle pour mettre fin à la séance. Elle salua les clients, fit un rapide débriefing avec son assistant, et récupéra ses affaires pour rentrer chez elle. Emma prit l'ascenseur et en quelques secondes se retrouva au pied du Rockefeller Center. Il faisait nuit depuis longtemps. De la buée sortait de sa bouche. Le vent glacial qui balayait le parvis n'avait pas découragé les nombreux badauds se pressant contre les barrières pour photographier l'immense sapin de Noël qui dominait la patinoire. Haut d'une trentaine de mètres, l'arbre ployait sous les guirlandes électriques et les décorations. Le spectacle était impressionnant, mais donna le cafard à Emma. Ça avait beau être un cliché, le poids de la solitude était vraiment plus lourd lors des fêtes de fin d'année. Elle s'approcha du bord du trottoir, ajusta son bonnet et resserra son écharpe tout en scrutant les lumineux sur le toit des taxis, espérant, sans trop y croire, repérer une voiture libre. Malheureusement, c'était l'heure de pointe et tous les Yellow Cabs qui passaient devant elle avaient déjà chargé des passagers. Résignée, elle fendit la cohue et marcha d'un pas pressé jusqu'à l'angle de Lexington Avenue et de la 53e rue. Elle s'engouffra dans la station de métro et prit la ligne E, direction Downtown. C'était prévisible. Le wagon était bondé et elle voyagea debout, comprimée par les autres usagers. Malgré les secousses, elle extirpa son téléphone et relut le SMS qu'elle connaissait pourtant par cœur. « Je suis de passage à New York cette semaine. On dîne ensemble ce soir. Tu me manques. François. » « Va te faire foutre, sale connard. Je ne suis pas à ta disposition. » fulmina-t-elle en ne quittant pas l'écran des yeux. François était l'héritier d'un important vignoble du Bordelais. Elle l'avait rencontré 2 ans plus tôt lors d'un voyage de découverte des cépages français. Il ne lui avait pas caché qu'il était marié et père de 2 enfants, mais elle avait néanmoins répondu à ses avances. Emma avait prolongé son voyage en France et ils avaient passé 1 semaine de rêve à parcourir les routes du vin de la région. La célèbre route du Médoc, sur la piste des grands crus classés et des châteaux, la route des coteaux, avec ses églises romanes et ses sites archéologiques, les Bastides et les abbayes de l'Entre-deux-Mers, le village médiéval de Saint-Émilion. Par la suite, ils s'étaient revus à New York au gré des déplacements professionnels de François. Ils avaient même passé 1 autre semaine de vacances à Hawaï. 2 ans d'une relation épisodique, passionnelle et destructrice. 2 ans d'attente déçue. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, François promettait qu'il était sur le point de quitter sa femme. Elle ne le croyait pas vraiment, bien entendu, mais elle l'avait dans la peau. Alors ? Et puis un jour, tandis qu'il devait partir en week-end, François lui avait envoyé un message pour lui dire qu'il aimait encore sa femme et qu'il souhaitait mettre fin à leur relation. Plusieurs fois déjà dans sa vie, Emma avait flirté avec les limites. Boulimie, anorexie, scarification, et l'annonce de cette rupture ouvrit un gouffre en elle. Un sentiment profond de vide l'avait alors dévastée. Ses lignes de fracture s'étaient creusées. Ses zones de fragilité avaient contaminé tout son être. Soudain, l'existence n'avait plus rien à lui offrir, et la vie lui avait semblé n'être que douleur. Pour faire taire cette souffrance, elle n'avait trouvé comme solution que de s'allonger dans sa baignoire et de se taillader les poignets. Deux profonds coups de cutter à chaque bras. Ce n'était pas un appel à l'aide, ce n'était pas du cinéma. Cette crise suicidaire avait été brutale, déclenchée par cette déception amoureuse, mais le mal venait de plus loin. Emma voulait que sa vie s'arrête, et elle aurait réussi si son imbécile de frère n'avait choisi ce moment pour débarquer dans son appartement, lui reprochant de n'avoir pas payé ce mois-ci la maison de retraite de leur père. En repensant à cet épisode, Emma sentit un long frisson glacer son échine. La rame de métro arriva à la station de la 42e rue, terminale des bus. Là, le wagon se vida et elle put enfin trouver une place. Elle venait de s'asseoir lorsque son portable vibra. François insistait. « Je t'en supplie, chérie, réponds-moi. Laissons-nous une nouvelle chance. Fais-moi un signe, s'il te plaît. Tu me manques tellement. Ton François. » Emma ferma les yeux et respira lentement. Son ancien amant était un manipulateur égoïste et inconstant. Il savait user de sa séduction pour se composer un personnage de héros au grand cœur et assurer son emprise sur elle. Il était capable de lui faire perdre tout contrôle. Il savait cruellement profiter de ses faiblesses et de son manque de confiance en elle. Il s'engouffrait dans ses failles, grattait ses cicatrices. Surtout, il avait l'art de farder la réalité pour présenter les choses à son avantage, quitte à la faire passer pour une mythomane. Pour ne pas être tentée de répondre, elle éteignit son portable. Elle avait consacré trop d'efforts pour se défaire de son emprise. Elle refusait de retomber dans son piège juste parce qu'elle se sentait seule à l'approche de Noël. Car son pire ennemi n'était pas François. Son pire ennemi, c'était elle-même. Elle ne pouvait se résoudre à vivre sans passion. Derrière son côté lisse et drôle, elle connaissait son impulsivité, son instabilité émotionnelle qui, lorsqu'elle prenait le dessus, la plongeait alternativement dans des périodes de profonde dépression et d'euphorie incontrôlable. Elle se méfiait de sa terreur de l'abandon qui pouvait la faire basculer à tout moment et sombrer dans l'autodestruction. Sa vie affective était jonchée de relations douloureuses. En amour, elle avait trop donné à des personnes qui ne le méritaient pas, des sales types comme François. Mais il y avait en elle quelque chose qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne maîtrisait pas. Une force obscure, une addiction la poussant dans les bras d'hommes qui n'étaient pas libres. Elle recherchait sans discernement une sorte de fusion, sachant très bien qu'au fond, ces relations ne lui apporteraient ni la sécurité, ni la stabilité auxquelles elle aspirait tant. Mais elle insistait, et avec dégoût, elle se faisait la complice de leurs infidélités, brisant des ménages, même si c'était contraire à ses valeurs et à ses aspirations. Heureusement, la psychothérapie qu'elle suivait depuis quelques mois l'avait aidée à prendre du recul et à se méfier de ses émotions. Désormais, elle savait qu'elle devait penser à se protéger et à se tenir éloignée des individus néfastes. Elle arriva au terminal de la ligne, la station World Trade Center. Ce quartier du sud de la ville avait été complètement dévasté par les attentats. Aujourd'hui, il était toujours en travaux, mais bientôt, plusieurs tours de verre et d'acier domineraient la skyline new-yorkaise. Un symbole de la capacité de Manhattan à sortir plus fort de toutes les épreuves, pensa Emma en montant les escaliers pour rejoindre Greenwich Street. Un exemple à méditer. Elle marcha d'un pas vif jusqu'au croisement de Harrison Street et s'engagea sur l'esplanade d'un complexe d'habitations constitué de hauts bâtiments de briques marron construits au début des années 1970, lorsque Tribeca n'était qu'une zone industrielle recouverte d'entrepôts. Elle composa le code d'entrée et poussa des deux bras une lourde porte en fonte. Pendant longtemps, le 50 North Plaza avait abrité des centaines d'appartements à loyer modéré dans ses trois tours de 40 étages. Aujourd'hui, les prix avaient flambé dans le quartier et l'immeuble allait être rénové. En attendant, le hall avait une allure triste et délabrée. Murs décrépits, éclairage terne, propreté douteuse. Emma prit le courrier dans sa boîte aux lettres et emprunta l'un des ascenseurs pour rejoindre l'avant-dernier étage où se trouvait son appartement. Clovis ? À peine avait-elle franchi le seuil que déjà son chien rebondissait devant elle, lui faisant fête. « Laisse-moi au moins refermer la porte !» se plaignit-elle en caressant la peau ample du Sharpei qui ondulait en plis secs et durs. Elle posa son sac et joua quelques minutes avec le chien. Elle aimait sa silhouette compacte et robuste, sa truffe épaisse, ses yeux francs foncés dans sa tête en triangle, son air gentiment boudeur. « Toi, au moins, tu me seras toujours fidèle !» Comme pour le remercier, elle lui servit un gros bol de croquettes. L'appartement était petit, à peine 40 mètres carrés, mais il avait du charme. Parquet clair en bois brut, mur de briques apparentes, grande baie vitrée. La cuisine ouverte s'articulait autour d'un comptoir en grès noir et de trois tabourets en métal brossé. Quant au salon, il était envahi de livres classés sur des étagères. Fictions américaines et européennes, essais sur le cinéma, ouvrages sur le vin et la gastronomie. L'immeuble avait quantité de défauts. Une vieille plomberie, des dégâts des eaux récurrents, une buanderie infestée de souris, des ascenseurs toujours en panne, une climatisation défectueuse, des murs si fins qu'ils tremblaient pendant les orages et ne laissaient rien ignorer de l'intimité des voisins. Mais la vue était envoûtante et dégagée, dominant le fleuve et offrant des perspectives à couper le souffle sur Lower Manhattan. En enfilade, on voyait la succession des buildings illuminés, des quais de l'Hudson et des embarcations qui glissaient sur le fleuve. Emma retira manteau et écharpe, pendit son tailleur sur un mannequin, enfila un vieux jean et un t-shirt trop large des Yankees avant de rentrer dans la salle de bain se démaquiller. Le miroir lui renvoya l'image d'une jeune femme de 33 ans aux cheveux bruns légèrement ondulés, au regard vert clair et au nez pointu, sur lesquels s'égrenaient quelques taches de rousseur. Dans ses très bons jours, on pouvait lui trouver une vague ressemblance avec Kate Beckinsale ou Evangeline Lilly, mais aujourd'hui n'était pas un bon jour. Ultime effort pour ne pas se laisser envahir par la tristesse, elle adressa au miroir une grimace moqueuse. Elle ôta ses lentilles de contact qui lui piquaient les yeux, chaussa sa paire de lunettes de myope et gagna la cuisine pour se préparer du thé. Oh, ça caille ici, frissonna-t-elle en s'emmitouflant dans un plaid et en augmentant la puissance du radiateur. Comme l'eau tardait à bouillir, elle s'installa sur l'un des tabourets du bar et ouvrit son ordinateur portable posé sur le comptoir. Elle mourait de faim. Elle se connecta au site d'un restaurant japonais qui livrait à domicile et se commanda une soupe miso ainsi qu'un assortiment de sushis, de maki et de sashimi. Elle reçut un email de confirmation, vérifia sa commande et l'heure de livraison, puis en profita pour parcourir ses autres messages, redoutant un courrier de son ancien amant. Heureusement, il n'y avait pas de message de François. Mais il y avait un autre courrier énigmatique écrit par un certain Matthew Shapiro, un homme dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant, et qui allait bouleverser sa vie.